Chapitre 79. Les navires de Sirimundi cinglaient vers le nord dans le sillage de l'armada adverse. Obsédés par Tanimura, les Norokai ne se doutaient pas qu'on les suivait. Histoire qu'ils continuaient à ne s'apercevoir de rien, Olgia avait généré une nappe de brouillard. Très nerveux, Otto se tenait à la proue de la Vierge des Brumes. Une main en visière, le capitaine Ganli semblait plus serein.
« Tu es tendu ?» demanda-t-il. « Où est-ce de l'impatience ?»«
Les galères ont de l'avance, et je ne veux pas rater la bataille. Je me réjouis que Sirimundi ait été épargné, mais la guerre n'est pas finie. Imagine les dégâts que fera une armada à Tanimura. Une simple expédition a dévasté notre port. »
Confiant, Ganli lissa sa barbe.
« Mais cette fois, nous avons un plan. Quand nous les prendrons à revers, ça leur fera l'effet d'un coup de couteau dans le dos, et c'est tout ce que méritent ces fichus esclavagistes. »
Otto baissa les yeux sur l'écume qui se formait à l'avant du bateau. Plissant le front, il fut soufflé de voir des silhouettes élancées nager jusque sous la surface. D'abord, il crut qu'il s'agissait de dauphins qui accompagnaient le navire, mais il ne fut pas dupe longtemps.
« Des Selka ! Des Selka avancent avec nous !»
Ganli regarda et vit que des centaines de créatures fonçaient vers Tanimura, comme si elles escortaient la flotte de Sirimundi.
Ça n'a rien d'inquiétant, je crois. Les Selka abominent les Norokai qui le leur rendent bien. Les hommes-poissons n'ont pas soif de notre sang.
Eh bien, après la bataille, ils pourront festoyer.
Tous les navires étaient équipés de plaques de blindage, selon le vœu de Nietzsche. Et pour leur équipage, les épées, les lances et les harpons n'avaient presque plus de secrets. En outre, des dizaines d'archers d'élite répartis entre les bateaux disposaient de réserves presque inépuisables de flèches à la tête enduite de poids. Les cheveux défaits, Olgia vint rejoindre ses amis à la proue. D'un simple sortilège, elle avait fait forcir les vents qui poussaient la petite flotte. La destination approchant, elle plia et déplia les doigts afin de dissiper le rideau de brume. La flotte ne serait plus dissimulée, mais les esclavagistes ne jetteraient sûrement pas un regard derrière eux. Déjà, ils sentaient le sang de leur future victime. De sa position, Otto vit pour la première fois la cité de Tanimura et son port 10 fois plus grand que celui de Sirimundi. Dans le lointain, la bataille était déjà bien engagée. Tacticien peu subtil, les Norokai venaient se jeter sur les défenseurs avec la simple idée de les écarter de leur chemin.
« Nathan est là-bas !»
dit Olgia.
« Avec Auron et Perry, à eux trois, ils doivent générer de sacrées défenses magiques !»
Même de très loin, on voyait très bien les mâts des galères coulées qui émergeaient encore de l'eau.
« Ils ont déjà fait du bon travail !»
déclara Otto.
« Ils nous en feront du meilleur encore !»
s'écria Olgia. Elle écarta les bras, puis se tapa bruyamment dans les mains. Dans l'eau, des ondulations apparurent. D'abord insignifiantes, ces lignes de force gagnèrent en puissance pour créer une déferlante qui fondit sur les galères.
« Notre premier coup attirera leur attention !»
souffla Olgia. Dans le sillage de cette lame, Otto vit que des centaines de Selka s'étaient lancés à l'assaut. Quand la vague s'abattit sur les galères de queue, les esclavagistes rugirent de rage, puis ils se pétrifièrent quand les premiers Selka entreprirent de se hisser le long des coques endommagées. Otto en sourit de plaisir. Ganli, lui, ordonna à ses archers de se tenir prêts. Quand il en eut donné le signal, une volée de flèches enflammées fendit l'air puis s'abattit majestueusement sur les bâtiments ennemis. Le début des réjouissances seulement. Comme la seconde mâchoire d'un piège très bien conçu, la marine de Sirimundi se joindrait très bientôt à l'action. Alors que la galère de Calvaire raclait contre la coque fatiguée du chasseur, à ce régime-là, le blindage ne durerait pas longtemps, Nathan s'efforçait de garder la tête hors de l'eau. Lors d'un naufrage, c'était une précaution élémentaire, certes, mais pas suffisante. S'il ne se passait pas très vite quelque chose, le vieux sorcier finirait écrabouillé entre les deux coques. L'événement étant à un souffle de se produire, il utilisa son don pour éloigner les deux navires et sauver sa peau.
« Pour un grand sorcier, ça n'aurait pas fait une fin très glorieuse. »
Sur le pont du chasseur, on se battait rudement s'il fallait se fier au boucan. Une main plaquée sur son flanc blessé, un Norokai vint rejoindre l'ancien prophète dans l'eau, mais il coula comme une pierre. Le poids de ses bottes et de sa cape gorgée d'eau entraînait Nathan vers le fond, mais en battant des jambes, il parvenait à ne pas couler. Du coup, il pouvait avancer ou reculer le long de la coque du chasseur. La patience n'étant pas son fort, il finit par craquer.
Ohé, du bateau !
Cria-t-il.
Quelqu'un veut bien m'envoyer une corde. Une fois sur le pont, je serai très utile.
Occupés à combattre pour leur vie, les marins ne réagirent pas. Bannon et Lila, Nathan le savait, étaient des escrimeurs hors pair. Mais les Norokais n'avaient presque rien d'humain et ils se battaient à leur façon. Rageur, le vieil homme tenta d'enfoncer ses ongles dans le bois humide et glissant de la coque. Quand il eut un semblant de prise, ses talons en appui sur un amas de bernacle, il réussit à se tracter en hauteur, assez pour s'accrocher au rebord d'un hublot très au-dessus de la ligne de flottaison, puis se hisser hors de l'eau à la force du poignet. Trempé comme une soupe, il continua sa pénible progression, mais se retrouva coincé à mi-chemin du salut. Trop loin du bastingage pour s'y accrocher, plus aucune prise ne s'offrant à ses pieds, il essaya de rester suspendu à la coque, mais ses forces le lâchèrent et il bascula en arrière. D'instinct, il généra un tapis d'air pour se soutenir. En des circonstances normales, il aurait utilisé ce sortilège pour frapper un ennemi, mais il fallait savoir s'adapter. Dans cet ordre d'idées, il créa un courant d'air ascendant qui propulsa son tapis et son corps assez haut pour qu'il puisse sauter sur le pont. La réception fut rude, et il glissa sur le plancher poisseux de sang et d'autres immondices. Comme un jeune homme, il se rétablit souplement, prêt au combat, face à Bannon et Lila. Le souffle court, les deux jeunes gens étaient couverts de sang. À leurs pieds gisait le corps sans tête du roi Calvaire et la dépouille d'une guerrière assez laide pour valoir des cauchemars récurrents à un honnête homme. Jared à leur tête, les marins du chasseur eurent au fait d'acculer au bastingage les derniers Norokais présents à bord. Histoire de signaler sa présence, Nathan désintégra ses fâcheux d'un simple éclair. Trempé jusqu'aux os, sa crinière dégoulinante, il tapa sur l'épaule de Bannon.
« Tu vas bien, fiston ?»
Le jeune escrimeur baissa les yeux sur la dépouille de Calvaire.
« Oui, très bien !»
dit-il avec un sourire. Désireux de ne pas ressembler plus longtemps à un chat tombé dans une baignoire, Nathan invoqua son don pour se sécher. Sa lame levée, Bannon étudia le sang qui la maculait, celui de Calvaire.
« Encore merci de cette arme, Nathan !» Avec ce lit, j'aurais fait autant de dégâts, mais cette épée était de très bonne qualité.
Content qu'elle te convienne, fiston. Hélas, ce qui s'est passé sur ce bateau est anecdotique comparé au reste de la bataille. En d'autres termes, nous avons encore beaucoup de pain sur la planche.
L'élan de l'armada semblait brisé. Mais trop de galères étaient passées et des esclavagistes déchaînés semaient la mort dans le quartier du port d'où montaient des flammes et des colonnes de fumée. Il n'y avait pas que ça. Dans le lointain, des soudards dévalaient le flanc des collines.
« Par les esprits du bien, nous !»
Avant d'avoir terminé sa phrase, Nathan sentit une douleur aiguë partir de son cœur pour se diffuser dans son torse et jusqu'au creux de son épaule gauche. Comme si le spectre divin le torturait de l'intérieur, il tomba à genoux, certain que sa dernière heure allait sonner. Son cœur luttait pour continuer à battre, et il l'entendait pulser à ses tympans. Depuis la greffe réalisée par le sorcier de chair André, Nathan luttait pour conserver le contrôle de son nouveau cœur. Malgré tous ses efforts, il n'avait pas réussi à enchasser la corruption et la violence du dresseur mort.
« Non, tu n'es plus de ce monde. Je ne te rendrai pas ton cœur. »
Les pulsations s'accélérèrent. Derrière les yeux du vieil homme, une décharge de douleur le fit grimacer. Il plaqua les mains sur sa poitrine, mais le cœur d'Ivan continua à le torturer comme s'il entendait le punir de quelque chose.
« Tu n'es pas là !»
siffla Nathan entre ses dents serrées.
« Ce monde n'est pas le tien !»
Lila et Bannon prirent le vieux sorcier par les épaules.
« Que se passe-t-il ? Que pouvons-nous faire pour t'aider ?»
Nathan ne répondit pas, trop occupé à combattre l'esprit d'Ivan. Les pulsations s'affolèrent comme si le cœur allait exploser. Puis d'un seul coup, il n'y en eut plus. Quand il sentit l'organe s'arrêter de battre, Nathan écarquilla les yeux. Incapable de respirer, il s'écroula sur le pont. Autour de lui, il ne sentait plus rien, à part le vide qui l'enveloppait dans un cocon. Entêté, il essaya de reprendre le contrôle de son corps. Bannon et Lila le secouaient et les marins criaient d'angoisse. Alors que les ténèbres le submergeaient, le vieux sorcier imita les hommes de Jared, mais dans sa tête, car aucun son ne sortit de sa gorge. Puis une brume verte l'enveloppa, et il entendit un appel, d'abord un murmure, ensuite une injonction.
« Tu es mort, et tu m'appartiens. »
Le gardien, Ivan, impossible à déterminer.
« C'est faux, »
voulut dire Nathan. Mais ses lèvres refusèrent de bouger. Fou de rage, il sentit la présence des vestiges déclinants de son don et décida de lutter jusqu'à la dernière seconde.
« Je ne te rendrai pas ton cœur. »
Avec son pouvoir, si faible fut-il, il massa son cœur, le forçant à repartir. Chassé de l'organe vital, Ivan se réfugia dans les veines de son hôte. Il ne renoncerait pas si aisément, mais en attendant, le voile vert disparut. De nouvelles pulsations, d'abord faibles, puis de plus en plus assurées et régulières. Voyant que son ami inspirait à fond, Bannon l'aida à s'asseoir et lui tapa doucement dans le dos.
« Nathan, ça va ?»«
Je suis vivant. »«
Oui. » »«
C'était juste un petit désagrément avec une sorte de visiteur. »
Le vieux sorcier se releva sur des jambes vacillantes.
« Maintenant, c'est réglé. »
Oubliant l'incident, Nathan tourna de nouveau la tête vers l'armée d'Outros qui déferlait sur les collines de Tanimura. Ce n'était pas le moment de mourir. Là-bas, Nietzsche et les autres avaient besoin de lui. Sur le front de mer, des bâtiments brûlaient. Héroïques, Zimmer et ses hommes tenaient tête aux Norukai, mais les Soudar étaient une menace d'une autre envergure. Sur les eaux, il restait au minimum 40 galères en bon état. Rejoignant le capitaine Jared, qu'il n'avait jamais vu échevelé ainsi, le vieux sorcier balaya du regard la scène et eut la surprise d'apercevoir une flotte de navires cuirassés. Une main en visière, Bannon cria de joie.
« Regardez, nous avons des renforts !» « La flotte de Sirimundi ?»
fit Lila, plus calme mais tout aussi satisfaite. « Ces navires suivaient les galères et maintenant ils passent à l'action. » Des cris de rage montèrent des galères. Partout les Norukai comprenaient que c'était eux désormais qu'on prenait en tenaille.
« Voilà qui devrait régler le problème de l'armada du roi calvaire !»
jubila Nathan.
« Peut-être, mais il y a encore du chemin jusqu'à la victoire. »
Lila regarda les collines noires de soldats.
« Le gros morceau reste à avaler. »
Conscient qu'il serait bien plus utile à terre, Nathan se tourna vers le capitaine.
« Elle a raison. La victoire est loin d'être acquise. Capitaine Jared, conduisez-nous sur les quais, à la vitesse de l'éclair. »